Les enjeux internationaux.
Bonjour Thierry Garcin, vous nous emmenez dans le désert du Sinaï avec un guide ce matin.
Alors guide précieux, Pierre Azou, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur notamment d'un ouvrage qui fait référence à la guerre Iran-Irak, c'était aux éditions
Perrin.
Voilà. Alors, donc vous enseignez, je crois, aussi à Sciences Po.
Oui.
Voilà. Alors, tout est dit. Alors, géopolitiquement, le Sinaï, c'est très intéressant. C'est un entre-deux, une péninsule désertique, riche en manganèse, en pétrole, bientôt en gaz, donc en mer. C'est une terre de passage habituelle des armées israéliennes et palestiniennes. C'est un espace donc intermédiaire, l'équivalent de 6 départements français, un sommet à 2600 mètres, des façades maritimes prestigieuses, la Méditerranée, le canal et le golfe de Suez, la mer Rouge, le golfe d'Aqaba. Il y a environ 400 000 Égyptiens. Et puis, évidemment, le Sinaï était vraiment la victime des guerres israélo-arabes, du conflit israélo-palestinien. On sait que la bande de Gaza et Israël sont frontaliers. Et puis, il est confronté à l'essor des mouvements islamistes radicaux. Vous le connaissez, le Sinaï ?
Oui, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois, avant, bien entendu, le déclenchement de la rébellion. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, dans le Sinaï, il y a toujours eu une sorte d'irrédentisme des Bédouins, en tout cas de certains Bédouins. C'était une terre de tous les trafics qui permettait donc d'acheminer des biens de contrebande un petit peu partout dans la région, y compris en Israël. Et bien entendu, la rébellion a commencé donc en février, la vraie rébellion a commencé en février 2011, en parallèle avec la révolution égyptienne. À l'époque, le pouvoir de Monsieur Morsi, donc, n'a pas vraiment pris les mesures nécessaires parce qu'il avait plein d'autres choses à faire sur la zone du Caire, sur les grandes villes égyptiennes. Et cette rébellion a connu un nouvel essor en 2013, en juillet 2013, avec la prise de pouvoir du maréchal Sisi.
Et en 2011, quelle était la cause
la militarisation de la crise.
Pardon. Quelle était la cause de cette rébellion en 2011?
C'était le fait qu'en fait, les Bédouins et les habitants, donc les Égyptiens qui habitent dans la péninsule, ont toujours l'impression d'être laissés pour compte et donc oubliés par le pouvoir central qui se préoccupe beaucoup plus de la vallée du Nil, des grandes villes méditerranéennes que de la péninsule du Sinaï, pardon, qui est totalement oubliée. Donc en fait, à l'été 2013, le pouvoir militaire a lancé une vaste opération de répression contre la péninsule du Sinaï pour essayer d'éradiquer tous les djihadistes, parce qu'en même temps, la péninsule du Sinaï a servi un petit peu de havre aux djihadistes de la région du Moyen-Orient, qu'ils combattent en Syrie ou dans la péninsule arabique ou au Yémen. Et c'est d'ailleurs ce qui fait assez peur au pouvoir égyptien. C'est paradoxalement de voir la guerre civile en Syrie se terminer, parce qu'il craint de voir un afflux massif en retour de djihadistes qui chercherait un nouveau théâtre d'opération qui serait bien sûr la péninsule du Sinaï.
Pierre Azou, j'avais intitulé cette séquence, donc cette émission, zone de non-droit, on peut quand même le dire.
Oui, complètement, même si aujourd'hui ça s'apparente un petit peu, si vous voulez, à ce que l'armée soviétique faisait en Afghanistan, c'est-à-dire une sorte de tentative de pacification du pays. Il faut se rappeler qu'il y a eu environ 600 morts du côté des forces de l'ordre, on va dire, et de l'armée égyptienne. Probablement environ 1200 du côté des rebelles et entre 200 et 300 civils égyptiens qui ont été tués. Donc il y a une vraie guerre qui se passe au Sinaï, même si personne n'en parle, même si le pouvoir égyptien maintient une chape de plomb sur la région.
Oui, je l'avais mentionné par écrit d'ailleurs dans notre site franceculture.fr, c'est-à-dire c'est un sujet effectivement qui est pas occulté mais qui est délaissé par la grande presse, en tout cas en France.
Oui, et pourtant il y a des enjeux réels, d'où le titre de votre émission. Moi j'en vois 5. Pour le pouvoir égyptien, le Sinaï, c'est d'abord et avant tout, je l'ai mentionné, un réservoir de djihadistes, donc qui est susceptible de menacer la stabilité du pays, dans le cœur de l'Égypte, au Caire, dans les grandes villes, sur le canal de Suez. C'est une menace potentielle sur le traité de paix avec Israël. Les Égyptiens, comme les Israéliens d'ailleurs, coopèrent extrêmement étroitement pour lutter contre les djihadistes, parce qu'ils savent que si le Sinaï devenait véritablement un foyer d'insurrection permanente avec des effets des deux côtés, c'est-à-dire du canal de Suez et du côté d'Israël, tout le monde y serait perdant.
Et en même temps, juste avant de prendre, vous aviez dit 5, avant de prendre le troisième élément, c'est un peu un jeu à somme nulle, parce que le politique tout répression pour faire vite d'Israël et de l'Égypte est extrêmement dangereuse en soi, il faut le rappeler, c'est-à-dire qu'au fond, ça prouve l'impasse et le côté mortifère de cette sous-région.
Oui, c'est-à-dire que c'est bien évidemment, en soi, la solution non militaire ne suffit pas. C'est-à-dire que il est bien évident que le problème, c'est que le pouvoir égyptien n'est peut-être pas totalement conscient, ou en tout cas volontaire, pour accompagner cette répression d'un accompagnement politique et socio-économique avec les populations locales.
D'autant que l'Égypte a elle-même en son sein des mouvements djihadistes, les frères musulmans, etc. Et que c'est le gros du problème pour elle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte d'excroissance géographique.
Oui.
Alors vous aviez dit donc le djihadisme, Israël, troisième élément.
Le canal de Suez, c'est-à-dire en fait le facteur économique qui se décline à la fois à travers le canal de Suez, qui a été agrandi par le maréchal Sissi l'année dernière avec l'inauguration, l'agrandissement, je parle.
Oui, oui.
Et avec l'agrandissement qui a été fêté en grande pompe début août. Et le tourisme, on oublie le tourisme, mais la péninsule du Sinaï a longtemps été une sorte d'Eldorado touristique.
Ça vaut pour les Jordaniens d'ailleurs aussi.
Et ça vaut pour les Jordaniens et aussi pour les Israéliens.
Les Israéliens, Eilat.
Eilat.
Aqaba, en Jordanie.
Et enfin, une menace potentielle sur les gisements gaziers offshore de Méditerranée.
Alors ça, il faut en parler. Il faut en parler parce qu'on a vu il y a quelques jours un des hauts responsables de l'ENI qui a expliqué qu'on avait trouvé donc en mer au large de l'Égypte et donc en partie du Sinaï, des réserves considérables de gaz, ce qui permettra à l'Égypte quand même de souffler un peu.
Oui, tout à fait. Ça permet au maréchal Sissi de voir...
Ça tombe bien.
Ça lui permet de voir le ciel s'éclaircir à l'horizon, même si ça reste assez lointain. Et ça lui permettrait d'être totalement indépendant sur le plan énergétique pour une période d'une vingtaine d'années.
Voilà, et ce sont les Italiens donc qui normalement les droits d'exploitation, si j'ai bien compris.
Oui, alors ensuite
avec les Égyptiens, évidemment.
Avec les Égyptiens et avec un certain nombre de compagnies occidentales associées, y compris Total.
Alors c'est un aspect géopolitique, ce gaz en mer en Égypte, parce que ça recoupe les intérêts dans toute cette partie donc du Levant, on va dire. Oui. Ça recoupe les intérêts qui ne sont pas conjugués, les intérêts du Liban, d'Israël, de l'État chypriote, de la Turquie,
des Palestiniens aussi.
Et la bande de Gaza,
oui,
mais que c'est moins important apparemment en quantité pour Gaza.
Tout à fait, mais les Gazaouis viennent des grandes compagnies d'exploration viennent de reconnaître qu'il y a du gaz.
Alors je me suis posé la question, je ne sais pas
si vous
avez la réponse, la Syrie, elle est concernée sur le plan gazier?
Alors,
beaucoup.
Elle aimerait récupérer un petit peu de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'elle est sur la frange extrême nord des grands champs. Et elle aimerait récupérer à la marge un petit peu de gaz.
Mais elle est incluse géographiquement
dans ses ressources, mais marginalement.
Marginalement. Est-ce que perspective de ce Sinaï, notamment des bandes armées, des djihadistes, du terrorisme, hélas?
Je pense qu'encore une fois, il n'y a pas véritablement de solution militaire en tant que telle. C'est-à-dire que l'armée égyptienne peut maintenir un semblant d'ordre un certain temps. Mais s'il n'y a pas de résolution politique, ou en tout cas s'il n'y a pas de prise en compte socio-économique des désidérata de la population, ça ne les mènera nulle part, je le crains.
Juste d'un mot, les États-Unis sont concernés?
Oui, parce qu'en fait, ils sont présents dans la zone, dans la péninsule, à travers la force multinationale d'observateurs, qui est le garant du respect du traité de paix israélo-égyptien de 1979. Et là aussi, le président Obama utilise la présence des troupes américaines sur place en tant que stabilisateur, qu'observateur, pour faire pression soit sur les Égyptiens, soit sur les Israéliens.
Voilà, merci beaucoup Pierre Azou. Et puis demain, nous allons rester dans la région avec le djihadisme radical et responsabilité internationale. Notre invité sera Denis Bouchard, franceculture.fr, Guillaume.
Merci beaucoup Thierry Garcin, avec effectivement un contenu enrichi sur le site des enjeux internationaux.
Oui, qui est très, très riche.